Et à 8h moins le quart, le week-end, c'est
à Alain
Baraton.
Alain
Delon, Alain Baraton.
C'est pas tout à fait la même catégorie. Bah bonjour si. Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous. J'ai eu la chance de rencontrer Alain Delon une fois dans ma vie. Le film Adieu l'ami, 1974, avec Charles Bronson, est une merveille. L'homme est impressionnant, je parle bien de Delon. Quand on le rencontre, on comprend pourquoi. C'est un monument du cinéma.
Aujourd'hui, Alain Baraton, c'est la Sainte Fleur, la Sainte Flore même. Mais c'est d'arbres dont vous venez nous parler ce matin, en rappelant qu'il y a 20 ans, une tempête d'une rare violence avait jeté des milliers d'arbres à terre dans le parc du château de Versailles et un peu partout en France aussi.
Tout à fait. 18 500 à Versailles pour être précis. Des chênes, des tilleuls, des marronniers ou encore des cèdres. On en reparlera bien sûr dans les mois qui suivent. Sachez qu'il faudra les jours suivants en abattre 30 000 supplémentaires avant d'engager les travaux de replantation. Alors aujourd'hui, le parc de Versailles a retrouvé sa beauté et parmi les survivants de la tempête, des végétaux qui se distinguent par leur beauté, leur dimension, leur âge ou leur rareté botanique.
Oui, des arbres qui sont maintenant qualifiés d'admirables.
Et c'est justice. Comme vous le savez, les arbres ne sont pas que des monuments faits de sève et de bois, ce sont des êtres vivants, témoins de plusieurs siècles d'histoire. Il a donc été décidé de les mettre en valeur en plaçant à leurs pieds une signalétique de qualité, en créant un parcours d'arbre en arbre et en utilisant les techniques modernes de communication comme les applications téléphoniques. Vous arrivez, vous cliquez et vous m'entendez raconter l'histoire de l'arbre.
En plus, c'est vous qui racontez.
En plus, c'est moi. Et je dois vous cacher que je suis assez ému que la présidente du château, Catherine Pigard, ait demandé que ce soit ma voix.
Et d'ailleurs, combien existe-t-il d'arbres admirables à Versailles ?
Dans un premier temps, parce qu'il a fallu les sélectionner, il en a été choisi 30 pour être précis. Alors, ils vivent un peu partout dans les jardins, comme à l'orangerie où il est possible de contempler un pamplemoussier centenaire ou un curieux palmier à deux troncs de stipe. Pour être exact, vous savez qu'on appelle le tronc des palmiers des stipes. Oui. Beaucoup plus imposant, un platane planté à deux pas du village de Marie-Antoinette qui a une souche si énorme qu'il est appelé depuis des décennies le platane à pied d'éléphant. En le voyant, on comprend vraiment pourquoi une telle appellation.
Et le doyen des arbres de Versailles, c'est un chêne.
Et oui, et il a toute ma préférence. Il vit sur une grande pelouse à quelques centaines de mètres du Grand Trianon. Sa hauteur est de 36 mètres et la circonférence de son tronc avoisine les 5 mètres 25. Il est contemporain de la construction du château et des jardins. Il a germé en 1670. Vous imaginez que cet arbre, il a connu Louis XIV, il a vu André Le Nôtre venir arpenter le domaine. Enfin, je trouve ça extraordinaire.
Alors, a vu Alain Baraton aussi.
Oui, mais bien tardivement. Le séquoia de Trianon aussi mérite le détour. Il est beaucoup plus jeune et même si sa hauteur atteint près de 40 mètres d'hauteur, 40 mètres, on commence à être dans le monument, hein, et son tronc 7,40 mètres de circonférence, même s'il a beau être l'un des plus vieux séquoias de France, il a été planté, lui, aux alentours de 1870, eh bien, il reste un gamin à côté du vieux chêne. Alors, j'avais envie, ce week-end, de rendre hommage à ces vieux arbres qui font la fierté des jardiniers de Versailles, la raison pour laquelle, demain, j'y reviendrai en parlant du sophora de Marie-Antoinette, des pins de Corse voulus par Napoléon et encore de ce très vieux juniperus qui, malgré son apparence un petit peu bizarre, pourrait bien vivre 1000 ans, voire plus.
Rendez-vous demain donc avec le sophora notamment. Vos réponses à présent, Alain Baraton, vont conseil aux auditrices et auditeurs de France Inter avec Dominique qui vous demande quelle est la meilleure période pour tailler un hibiscus.
Je vais être extrêmement précis parce que si je réponds la taille de l'hibiscus plante d'intérieur qui est ce que vous connaissez, que cette grande fleur en forme de trompette, vous allez peut-être me dire, oui, mais moi, dans mon jardin, j'ai aussi un hibiscus qui n'a pas de grande fleur en forme de trompette. Alors, il y a deux sortes d'hibiscus.
Intérieur et extérieur.
L'hibiscus d'intérieur, d'origine exotique, qui, lui, se taille, généralement, il peut se tailler à deux périodes de l'année. La première, en novembre, juste quand on vient de les rentrer, ce sont des plantes gélives. Et ça, c'est pour favoriser une floraison printanière. Vous pouvez aussi les tailler au moment où vous allez les sortir, donc en mars-avril. Et là, vous favoriserez une floraison estivale. Il suffit simplement de couper les branches les plus anciennes et de réduire d'un tiers les autres branches. C'est relativement simple. Dans le jardin, l'hibiscus syriacus, c'est son nom botanique, appelé également Altea ou mauve en arbre, au moins là, il n'y a aucun doute. j'ai donné toutes les appellations, eh bien, ne demande pas vraiment de taille. Ça ne sert à rien. Contentez-vous de supprimer les branches disgracieuses, les branches malingres, les branches mortes, et vous verrez que si vous n'y touchez pas, si vous le regardez mieux, si vous lui parlez, il vous fera plaisir en fleurissant énormément.
Laure voudrait savoir pendant combien de temps elle va devoir encore tondre sa pelouse.
Eh bien, tant qu'il fera beau, tant que les températures seront positives, tant que l'herbe ne se sera pas mise en repos végétatif, il faudra tondre à moins, bah de se dire que finalement un gazon qui prend quelques libertés à l'entrée de l'automne, c'est pas non plus négatif. Méfiez-vous des gazons tondus trop courts avant le gel, le piétinement peut gravement les endommager. J'aime bien un petit peu le côté papayasson, n'exagérons pas, mais cette herbe un peu folle à l'automne, qui vous permet en hiver, quand tout est bloqué, tout est gelé, on voit quelques petites fleurs, ça et là, je trouve ça plein de poésie. Et au printemps, oui, en table court, on dit là, terminé, on ne plaisante plus, on reprend le contrôle de la situation. Laissez donc, pour le moment, vivre paisiblement votre pelouse ou gazon. On fera peut-être un jour un petit cours ici, mais c'est compliqué, sur la différence entre pelouse et gazon, et pourquoi il existe des tondeuses à gazon, mais jamais de tondeuses à pelouse.
Vous nous expliquerez tout ça avec intérêt, on va suivre ça. Question de couleur maintenant, Sophie. Pourquoi la pelouse est-elle toujours verte et les carottes souvent orange?
Parce que la pelouse est majoritairement constituée de chlorophylle. La chlorophylle est un pigment que l'on voit beaucoup dans la photosynthèse, donc elle est verte. Mais il y a quand même dans le gazon même des carotènes, qui sont eux des pigments orange. La carotte, c'est un légume qui ne subit pas la photosynthèse car sous terre. Là, il n'y a pas de chlorophylle, mais il y a par contre de la carotène, pigment principal dans la carotte. Et que la carotène étant de couleur orange, la carotte est donc majoritaire.
Il y a des carottes qui sont presque blanches,
oui,
maintenant.
Oui, il y a des carottes blanches, il y en a même des rouges. Voilà, tout est compliqué. Il y a même des petites herbes, il y a des fois des fétus qui vont être un peu rouges. Tout est très compliqué, mais effectivement, la couleur d'une plante, c'est les pigments à l'intérieur.
Allez, un dernier conseil pour le week-end, Alain.
En rafale, fêtes, art et plantes au château Colbert à Monévrier dans le Maine-et-Loire. Je suis le parrain de cette manifestation et j'y serai demain, mais elle commence aujourd'hui. C'est la 3e édition de Jardin ouvert en région parisienne. Aujourd'hui et demain, quantité de manifestations. Et Gondwana, la fête des plantes méditerranéennes, c'est aujourd'hui et demain dans le domaine du Rayol, dans le Var.
À demain, la marathon.
À demain.